les gars, vous vous rendez compte, ça fait un an bientôt. Hein.
Ah, c'est vrai, non, ouais.
Ça va vite, hein.
Ouais.
Ça va vite. C'est une fin de saison pour Comics Cast Out, ok?
Non,
c'est Castamix. Attends,
c'est quoi? Mélissa Casta.
Calumix.
Comics Outcast.
Oui, Casta.
Comics Outcast.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais. Bonsoir et bienvenue dans ce 26e numéro de Comics Outcast, cette heure pendant laquelle on vous parle de comics et de leurs univers avec humour et toujours un peu de mauvaise foi. Ce soir avec moi pour m'accompagner, il y a Gaylor.
Bonsoir.
Comment ça va Gaylor?
Ça va très bien, oui.
Quoi de neuf en ce moment? Tu joues un truc?
En ce moment, je joue à Rocket League. Okay. Un jeu de foot où les joueurs sont des voitures, c'est n'importe quoi, c'est complètement débile, je passe mon temps là-dessus, c'est fantastique.
Ça a l'air un peu dément. Avec moi aussi, il y a Adrien.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien.
Tu lis, joues, regardes quelque chose en ce moment?
Je m'amuse pas mal avec Lifeline sur...
Mais oui,
ce jeu de texte
téléphone.
Là
ouais. Ouais, voilà, une aventure textuelle, super bien.
Moderne, mise au jour de 2015. Merci, et enfin on a Zep avec nous ce soir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que tu fais en ce moment?
Plusieurs choses. En tout cas, je suis revenu de la Gamescom et j'ai posé les mains sur Dark Souls 3 et sur un tout petit jeu qui s'appelle Battlefront Star Wars, je crois. Je suis pas sûr.
Oh oui. Comme d'habitude, je n'aime pas Star Wars.
En indé.
Studio. Ouais.
Moi, c'est Eric, votre animateur pour ce podcast. Comme toutes les deux semaines, on a un petit programme assez sympathique pour vous. On va vous parler de Rick and Morty, de The Dying and the Dead, de All New Captain America. On va vous faire découvrir la série de Jeff Lemire, Trillium. Et enfin, on va parler de la série télévisée adaptée d'un comics de Vertigo qui s'appelle iZombie. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle que vous pouvez toujours commenter et réagir à l'émission avec le hashtag ComicsOutcast et faire vos commentaires sur la page Facebook que vous visez déjà assez. Hein. On a plein de likes, on a plein de gens, on a plein d'amis.
Oui. Oui.
Voilà. Ouais. Voilà. Et je rappelle que depuis quelques temps, nous ajoutons du contenu supplémentaire sur la page Facebook. Donc, après chaque émission, libre à vous de venir voir les illustrations, les commentaires ou tout ce qu'on n'a pas pu dire dans le courant de l'heure. Voilà, on va commencer l'émission.
Oui, pourquoi pas.
Allez, on y va.
Comics et le cast numéro 26, c'est parti. Et la première revue de cette semaine. Oui, parce que j'ai pas dit, on est le 24 août, hein, c'est le podcast du 24 août. Ça va être Rick and Morty, et c'est Adrien qui va nous la présenter.
Oui.
Ouais.
Rick and Morty, la folie furieuse de Rick and Morty. Peut-être que vous connaissez déjà, c'est une série animée qu'on retrouve depuis l'an dernier sur Adult Swim, qui est le canal responsable de Robot Chicken, par exemple, ou des infomerciales.
Oui, comme Too Many Cooks.
Mais qui est aussi à l'origine de Tim et Eric, qui a beaucoup fait de bien à Futurama ou American Dad. Enfin, ce genre de projet, ce genre d'humour.
Oui, c'est cette période ça passe la nuit en fait, enfin en fin de soirée pour les adultes plutôt.
Ouais, on va dire que c'est plutôt pour les adultes, ouais. C'est complètement loufoque. Et donc, il y a ce nouveau projet qui s'appelle Rick and Morty, qui, comme le nom l'indique un petit peu, on peut retrouver Morty, Marty, il y a quelque chose de retour vers le futur.
À peine.
C'est un grand-père scientifique à tendance largement alcoolique qui part dans des aventures complètement folles à travers l'espace et le temps et les univers parallèles.
Donc voilà, le setting est bien placé, hein, c'est n'importe quoi.
Voilà, c'est complètement n'importe quoi. Il y a quelque chose d'un peu Futurama, mais en beaucoup plus adulte, un peu plus glauque, un peu plus trash. C'est parfois un peu gore. Et assez exigeant en termes de science-fiction, et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette série. Et donc, il y a un comics adapté de la série qui est sorti il y a peu. On doit en être à 5 issues, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça, oui.
Et j'ai le plaisir de vous présenter les trois premiers. En fait, je vais pas dire grand chose si ce n'est que ça ressemble très très fort à un épisode de Rick and Morty. Si vous connaissez Rick and Morty, ça vous paraîtra comme la lecture papier d'un épisode.
Ça a même aucun intérêt si t'as pas vraiment.
Voilà, en revanche, si vous ne connaissez pas la série, ça aura aucun intérêt dans la mesure où c'est plus, enfin c'est un produit dérivé quoi. C'est-à-dire que c'est
Complètement. Ouais, ouais.
C'est un épisode.
C'est un comics qui ne te présente rien du tout et qui part du principe que tu connais tous les personnages en place. Et...
Exactement. Dans cette aventure, on a Jerry, le père de Morty, qui lui demande de gagner sa vie et de se faire un petit peu d'argent par lui-même. Et donc, il décide avec Rick de devenir une sorte de génie de la bourse grâce à un petit appareil qui lui permet de deviner le cours des actions et du coup de faire des bons placements. Cet appareil qui prédit le futur est complètement illégal bien sûr dans la galaxie, ce qui va avoir comme effet de leur mettre la police du temps à dos.
une espèce de Doctor Who un peu dégueulasse qui vient les arrêter et leur prévenir que non, attendez, je vous ai à l'œil, si vous faites des conneries avec le temps, ça va barder quoi.
C'est ça. Alors, je vais pas vraiment en dire plus parce que après chaque chapitre est la suite de l'histoire et c'est l'occasion de présenter toujours des situations plus loufoques, des nouveaux monstres, des nouveaux délires, des nouvelles aventures.
On peut peut-être dire qu'à la fin de chaque issue, t'as une espèce de petite histoire parallèle aussi.
Exactement. Ouais. D'ailleurs, ça fait vraiment penser à la scène post-générique assez classique de Rick and Morty, où à chaque fois, il y a ce petit...
Bah, un autre membre de la famille,
c'est ça.
Parfois la mère, parfois la fille.
Ça permet de traiter un personnage qui n'aurait pas été trop abordé pendant le numéro, et du coup de lui redonner un petit peu de valeur.
C'est vrai que c'est pendant l'épisode, quoi.
Pour l'instant, on est dans un épisode, enfin dans 2-3 issues qui sont uniquement centrés sur Rick and Morty. Il arrive qu'il y ait des épisodes qui sont centrés autour de la famille. Là, non, donc du coup, c'est
ouais,
des épisodes.
Dans le troisième, ça se passe un petit peu plus dans la famille. Rick est un petit peu plus loin.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Voilà. Mais voilà, c'est assez fou. Moi, j'aime beaucoup l'histoire en cours. Ça me fait vraiment penser à un épisode. On retrouve les mêmes gimmicks.
Ah oui, c'est complètement dans le
temps. On a presque l'impression de voir les mêmes effets de montage, le même. C'est le même humour. Graphiquement, c'est pas toujours jojo. Il y a des cases qui sont quand même un petit peu faites à la va-vite.
Ça ressemble quand même à ce qu'on peut voir à l'écran ou c'est vraiment loin.
Alors, bon, on va dire qu'à l'écran, de toute façon, c'est pas non plus la.
C'est simple.
C'est assez simple.
C'est pas aussi sale que Dragon Ball Super, si tu veux. Comparaison.
Troll.
Mais non, là, il y a des cases qui sont quand même un peu crado. Même les personnages sont pas très respectés, mais ça passe. Et on retrouve, en tout cas je trouve en termes de scénario, quelque chose qui est vraiment du niveau de l'exigence de science-fiction qu'on peut retrouver sur la série. C'est pas un scénario qui, au rabais, qui méritait pas un épisode. C'est, je trouve un niveau qui est vraiment, vraiment chouette. Par exemple, tout à l'heure je parlais du device qui permet de prédire la bourse. Il y a un concept complètement fou, complètement Rick and Morty derrière. En fait, ça prédit pas du tout l'avenir, puisque Rick arrête pas de rappeler que le voyage dans le temps, ça n'existe pas et c'est de la merde. En fait, c'est juste que le device permet de choisir, de sélectionner une réalité dans laquelle l'action va prendre de l'argent et détruit toutes les autres réalités.
D'accord, c'est extrêmement radical, en fait. C'est
très radical, c'est complètement immoral, mais surtout, en fait, vraiment, en termes de science-fiction, c'est élevé. N'importe quel producteur d'Hollywood prendrait un pitch comme ça et en ferait un film. Eux, pour eux, c'est une blague. Et c'est ça que j'adore avec Rick and Morty, c'est la facilité avec laquelle ils sortent des concepts. C'est c'est Adult Swim, c'est Dan Harmon.
Donc vous connaissez de Community.
À qui on doit Community. Et voilà, c'est vraiment très bon. Moi, je prends beaucoup de plaisir avec ça. Je pense que ça sera un bon palliatif entre deux épisodes.
D'accord. Gaylor, qu'est-ce que tu en as pensé?
Globalement, j'ai beaucoup aimé. J'avais essayé de le lire avant de regarder la série et très vite tu lâches, tu dis non, je vais passer à la série. Tu comprends très vite que c'est un produit dérivé et qu'en tant que produit dérivé, c'est vraiment, enfin, c'est le produit dérivé pur, c'est vraiment complètement lié à son produit original et du coup, tu peux pas l'apprécier en tant que tel. Donc, tu peux pas apprécier forcément les dessins ni le, comment dire, Tu l'apprécies vraiment comme un épisode qui n'a pas été tourné, quoi. Et pourtant, c'est vraiment construit comme un épisode, quoi. C'est fou, quoi. Même dans les hésitations, quand par exemple Rick parle, il bégaye souvent, il rote, et ça se retrouve même dans l'écriture, quoi, dans les onomatopées. C'est vachement bien fait, je trouve. Et enfin, moi qui suis très très fan de la série, là, j'ai vu les 11 épisodes il y a quelques jours d'un coup, et j'ai pleuré de rire à chaque fois. C'est fantastique. Et là, bon, alors, c'est pas aussi drôle que les épisodes, mais c'est quand même, comme tu disais, très très exigeant au niveau du scénario, enfin des idées justement qu'ils mettent en place, c'est vraiment très très, très
ça très fait poussé. Pas, je trouve, enfin moi ça fait pas comme par exemple les comics Simpson qui sont, ouais, je trouve, ouais, très, voilà, mauvais. Là, tout à fait d'accord, oui. C'est vraiment très détaché. Là, il y a vraiment une filiation qui est totale.
D'accord, donc en fait, est-ce que dans la librairie, on parle beaucoup de ce qu'on appelle des tie-in, donc en fait de véritables œuvres qui sont créées pour prolonger, étendre un univers. Est-ce qu'on peut considérer que c'en est un, ou est-ce que... Enfin, c'est difficile de dire ça, que c'est différent, vu que c'est le même nom, c'est les mêmes...
Ça serait un tie-in, en fait, il prendrait un personnage secondaire et il ferait une série sur lui.
D'accord. Donc là, c'est... c'est prolonger l'univers en racontant ce qu'ils auraient peut-être pas pu faire.
C'est comme si c'était des épisodes bonus, en fait, entre deux saisons, tu vois.
Mais pas au rabais.
Non,
d'accord.
Vraiment.
Zef, qu'est-ce que tu en as pensé?
Je vais pas trop revenir sur ce qui a été dit, parce que je suis assez d'accord sur le fond. En fait, j'ai eu la même expérience que Gaylor, c'est-à-dire que j'ai commencé à lire le comics pour préparer l'émission. J'ai regardé 2 pages et demie et j'ai fait non, c'est de la merde, j'aime pas du tout, je ne comprends pas, c'est moche, je déteste. Ça fait un peu Razmoquette, je crois, en plus, dans le dessin.
Ah non, tu le dis avec les grands yeux, là.
Ouais, voilà. Et en fait, quand je me suis dit, ok, je vais quand même essayer de mater un épisode, parce que vous en parliez sur le forum, entre guillemets. Et j'ai pris les épisodes là où c'était disponible. Pardon. Et j'en ai maté 5 à la suite. J'étais juste pété de rire. Je pleurais toutes les larmes de mon corps de rire. Même mes pieds pleuraient de rire. Et du coup, je me dis, ok, là maintenant je peux vraiment lire le comics. Et du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment excellent.
Alors tu parles de téléchargement, mais à ma connaissance, c'est pas diffusé en France. Donc t'avais pas de moyen légal de le regarder ou de te les procurer.
Voilà, sûrement.
Parce que de toute façon, il y a une saison de très peu d'épisodes et une deuxième saison qui est en cours cet été, c'est ça ?
C'était une saison de 11 épisodes, ouais. La première. Et la deuxième, je sais pas si ça sera plus ou moins.
Mais elle est en cours.
Ça sera pareil.
D'accord.
Elle est en cours, on en est au 4e de la saison 2. Si vous pouvez, vraiment foncer.
D'accord.
Les épisodes sont disponibles, à mon avis, sur Adult Swim. Tu peux les regarder comme ça. J'ai regardé justement il n'y a pas longtemps le premier épisode de la saison 2.
S'il n'y a pas de géorestriction, ouais.
Ouais, mais enfin, je sais pas si toute la saison après comme ça est disponible ou juste une poignée, mais en tout cas, on peut regarder les épisodes en ligne. Ouais.
Et si vous voulez vous faire une idée de ce que peut valoir la série dans sa version animée, allez sur YouTube et abonnez-vous à Adult Swim. Ils vous balancent un peu tous les jours, bon, beaucoup de leurs programmes, mais ils vous mettent des petits extraits qui, je pense, synthétisent pas mal l'esprit de la série et qui vous, voilà, qui vous mettront peut-être la puce à l'oreille, qui vous donneront peut-être envie de regarder la série.
C'est totalement adulte dans le ton, par contre.
Ah oui, clairement. J'arrête pas de vous en parler hors antenne, mais Adventure Time, pour moi, c'est pas une série pour ados, ni même pour enfants. C'est véritablement une série adulte avec des sujets lourds et compliqués et profonds et philosophiques.
Là, j'entendais adulte parce que c'est gras et vraiment parfois très très glauque, quoi.
Ah, je pense que Cocktail et Moral aussi, il peut y avoir des... Ouais. Voilà, donc ça c'est dispo chez Onipress, ça a commencé en avril de cette année. J'imagine que ça... Enfin, vu que la série n'est pas diffusée en France, il y a peu de chances de voir ça traduit en français. Ça me surprendrait beaucoup.
Ouais.
Donc voilà, donc vous pouvez quand même les récupérer en langue anglaise dans vos bonnes crèmeries. On va passer à la deuxième revue, c'est Gaylor qui va nous le présenter. Il s'agit de The Dying and the Dead de chez Image Comics.
C'est ça, The Dying and the Dead. Alors au scénario, Jonathan Hinckman, un des... Alors ce n'est pas le chouchou de l'émission. Là, non, il y a Remender qui est au-dessus, on l'a bien compris. Je crois que tout le monde l'a compris maintenant.
Ouais.
Mais s'il devait y en avoir un deuxième, s'il devait y avoir un top 3, je pense qu'il serait bien classé quand même, Jonathan Hickman.
Oui,
on l'aime bien, on le connaît pour East to West, on le connaît pour Project Manhattan,
ouais.
On l'adore aussi pour Fantastic Four, on en avait parlé avec Daniel, son run sur Avengers, New Avengers, qui est complètement phénoménal. Et en
son
ce moment,
cycle
il est sur... Pardon ?
Son cycle sur Avengers ?
Son cycle. Et en ce moment, donc, il est sur l'event qui va clore l'univers Marvel, enfin celui qui est en cours, à savoir Secret Wars.
D'accord.
Et il trouve le temps dans tout ça de pondre comme ça une autre série Image, donc la troisième en cours si je me trompe pas, et donc c'est The Dying and the Dead qu'il produit avec Ryan Bodenheim, que je ne connaissais pas. Alors Ryan Bodenheim au dessin, qu'apparemment ils ont fait ensemble un truc qui s'appelle Red Mass for Mars. Alors si quelqu'un connaît,
voilà.
Moi je connais pas du tout, voilà, j'ai appris ça tout à l'heure en regardant sa page Wikipédia. Pour parler du comics, alors on a lu que 2 issues, parce qu'il n'y en a que 2 dispo. À savoir que le rythme de parution est très très bizarre. Le premier était sorti fin janvier,
ouais.
Et le 2 là est sorti, il me semble, il y a 2 mois. Donc j'ai l'impression que c'est une série Image, donc comme les deux autres, comme East to West et Project Manhattan, mais que c'est pas un truc régulier, c'est pas un truc que Hickman. Enfin, il est investi dedans, à mon avis, mais pas un niveau régulier en fait.
C'est pas son projet principal.
C'est pas, voilà, on sent clairement, c'est pas le projet principal.
D'accord.
peut-être après, quand il sera plus chez Marvel, dans quelques mois. Pour parler de Dying of the Dead, bon, bah, c'est, j'ai envie de dire, c'est du Hickman, quoi. Je veux dire, dès qu'on ouvre les pages, on voit tout de suite, c'est propre, c'est super limpide. Niveau de cadrage, ça fait penser à un film. J'ai l'impression que chaque case, ça pourrait être tellement collé, hein. Ouais, tellement collé dans un film. Et tu sens tout de suite direct qu'on est tout de suite dans, encore une fois, dans le high concept à la Jonathan Hickman. Et là, pour le coup, le high concept, c'est une espèce d'Indiana Jones avec des vieux. C'est comme ça que Image Comics a marketé le comics. Alors moi, je rajouterais, donc forcément, Indiana Jones oblige avec encore plus de surnaturel et même des nazis. Alors cette fois, encore mieux organisé, on le voit au tout début du premier issue. Il y a tous les ingrédients d'Indiana Jones. Alors, il y a l'artefact à récupérer. Il y a des espèces de promesses de vie éternelle autour de cet artefact, mais il y a surtout une espèce de monde mystique souterrain extrêmement mystérieux qu'on nous balance comme ça dès le début. Et moi, personnellement, graphiquement, je trouve que ça tabasse, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment très 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 fouillé au niveau du dessin. Par contre, j'ai un petit bémol au niveau des dialogues. On en parlait avec Adrien avant l'émission. Et je suis un peu d'accord avec le fait que, c'est très très dense. C'est très très dense et ça aborde beaucoup beaucoup de thèmes, pas forcément très abordables tout de suite dans un premier issue, à savoir par exemple la place de l'homme dans la nature, la religion, la politique, la mort, le destin. T'as l'impression d'être dans un cours de philo, alors t'es...
C'est exactement ça.
Toi, tu t'attendais à la récré, tu vois, puis d'un coup, bim, 2 heures de philo.
C'est... Okay. Ça peut être un peu rédhibitoire. Ouais.
Voilà. En plus de ça, le lecteur n'a vraiment aucune info, on n'a pas cette petite voix du personnage qui dit « oui, je m'appelle machin et mon destin, c'est... » On est vraiment lâché au milieu de l'action.
Je viens de loin.
Et on doit vraiment s'accrocher à chaque interaction, chaque lieu visité, chaque flashback, puisqu'il y a quelques petits flashbacks. Et on retient en fait de tout ça que c'est l'histoire en fait tout simplement d'un homme qui est sur le point de perdre sa femme et qui fait un espèce de pacte avec ce peuple mystique, ce peuple de d'êtres qui vit depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on comprend. Et il est face à ce choix cornélien, et c'est très drôle parce que c'est un choix qu'on lui propose et à la fois qu'on lui déconseille tout de suite de suivre. Donc tout de suite on comprend pas, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On comprend en fait dans ce dialogue entre justement le vieil homme qui est invité par ses puissances à remplir une mission pour eux, qu'il y a un lourd passif entre eux, quoi.
Et une claire proximité entre les deux qui est un peu explorée par des personnages autour qui disent mais ah vous connaissez, ok cool,
voilà. Et on est clairement dans le comics d'ambiance, hein. C'est un truc donc comme je disais à la fois mystérieux, c'est du Hickman, c'est très très maîtrisé dans la mise en place, dans l'écriture. Un petit mot aussi pour les couleurs, je trouvais vraiment très très...
C'est un truc dont j'avais parlé, les couleurs, ça tabasse juste en fait.
Oui,
c'est très très soft mais très profond à la fois.
C'est ça, ouais. C'est pas un gimmick comme dans Hate dont on avait parlé quelques émissions auparavant, donc le orange c'est le passé, le rouge c'est le futur, le vert c'est je sais pas quoi, et le bleu c'est chez ta grand-mère, tu vois. C'est... Là on est vraiment dans un truc où il joue surtout avec la tonalité. On est toujours dans des... Il y a des personnages, donc les fameux démons dont je parlais juste avant, enfin ce peuple de... Qui vit depuis la nuit des temps, qui sont très très blancs, qui du coup se détachent vraiment du background, qui est fait vraiment de couleurs très très à la fois très ternes, et des fois quand il y a un élément vraiment qu'on doit retenir qui tout de suite saute au visage. Enfin c'est, je trouve ça d'une manière générale, que ce soit dans l'écriture, la mise en place, les couleurs, c'est très intelligent.
Du coup ça c'est un parallèle qu'on peut faire avec la série East of West, où chaque avatar a une couleur principale et les scènes dans lesquelles ils agissent prennent le ton de leur couleur principale.
À la, à la différence de East to West, ça démarre de manière beaucoup moins fun. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus austère en fait.
Ouais, c'est très froid.
Oui. Et puis en plus, premier issue, c'est 60 pages dans la gueule en direct. C'est pour le coup, t'en as pour ton fric. Hein, c'est 4,50 $. Alors mon point de vue, c'est que c'est dense, mais c'est jamais confus, quoi. C'est extrêmement lourd, mais c'est, tu sens que ça va vers quelque chose. Tu vois, c'est du Hickman et tu sens que il pose les germes d'une histoire qui va être un peu conspirationniste et qui va prendre très très rapidement une certaine ampleur. Et moi je suis très fan de tout ce truc un peu mystérieux que Hickman met en place à travers tous ses comics. Là pour le coup il se lâche, là, il fait vraiment un truc. J'espère juste que ça va pas partir en truc volontairement compliqué et que ça va perdre tout le monde. Voilà.
D'accord. Alors, ton point de vue, enfin, on a un peu parlé avant en antenne,
mais on a un peu triché, on a parlé.
Je vais écouter celui de Zef. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série ?
Alors, simplement, j'ai kiffé ma race.
Mais voilà.
En fait, le truc, c'est que. Je vais faire une comparaison un peu lointaine, mais on en parlait en off. Moi ça m'a fait penser à Lost, en fait. Ah. C'est le côté. On te lâche un truc
tu sens immense dans ta gueule et tu comprends rien et t'as juste envie de te perdre un peu dedans, de découvrir un petit peu de mystère, de prendre des petits morceaux. Ah putain, attends, il a dit ça, c'est peut-être que machin, ça va faire référence à... Et essayer de trouver à chaque fois une petite référence philosophique en plus que tu vas aller chercher sur le net, machin et tout. Et donc du coup, c'est vraiment... Toi, tu parlais voilà, du gros dialogue philosophique, de la place du vieux homme dans le monde, tout. Moi, j'étais au bord des larmes tellement c'était bien.
Ah ouais.
J'ai kiffé tout. J'adore ce côté... En fait, ça donne une vraie profondeur aux comics, en fait, qui pourrait pu être plus simple, en fait. Même s'ils avaient pas mis, en fait, tout ce côté philosophique, théologique, machin et tout, ça serait passé très bien. Mais je trouve qu'en mettant ça et en le mettant bien en scène et là, en l'adaptant justement à la situation, je trouve ça extrêmement intelligent et ça donne une vraie profondeur aux comics, une vraie profondeur aux personnages. Visuellement, c'est comme East of West, ça tabasse. T'es aspiré dans le truc, t'es aspiré tout l'univers, il découle un truc, c'est vraiment fantastique. Et moi, je m'abonne demain, quoi. Je vais prendre ça direct à ma crèmerie et je vais.
Un truc que j'ai pas précisé, c'est que tout cet aspect extrêmement dense qui peut décourager la façon dont on en parle, c'est vraiment uniquement dans le premier issue. Enfin, dans le deuxième, déjà, on sent que ça va un petit peu plus vite et que ouais. Ça s'accélère et les personnages commencent à se mettre en place. On voit un peu plus de tête. Voilà.
On va passer la parole à Adrien.
Ouais. Non, j'ai pas un avis aussi positif. Assez simplement parce que, alors peut-être que j'avais lu Rick and Morty avant et que c'était des gens qui pètent et qui rotent et qui vont dans l'espace.
T'avais le cerveau tout mou.
Voilà. J'étais peut-être pas prêt à me prendre une telle diarrhée verbale pendant 60 pages où je pigeais rien et où au final j'avais dépensé 4,50$ pour qu'on me dise. Attention, ça va être Image et Hickman, donc tu vas rien comprendre, mais tu vas payer quand même.
Ouais.
Et je suis un peu en colère, en fait, un peu contre ce genre de narration. Je dis narration parce que j'ai pas envie de mettre que ce genre de comics. Ça existe dans les séries, ça existe dans les films, ça existe dans plein de genres, mais ça arrive de plus en plus qu'on considère le temps du lecteur ou de l'auditeur comme dû. Et là, j'avais l'impression qu'on me disait ça, qu'on me disait ton temps... ton engagement dans mon comics, il m'est dû parce que je suis Hickman, parce que je suis Image, et que tu vas forcément acheter les 4 premiers. J'ai pas besoin de t'expliquer tout de suite de quoi il s'agit, parce que tu vas lire les quatre suivants.
En gros, ouais, mon nom et ma marque voilà, précèdent même ton intérêt, quoi.
À la fin du 1, je me suis dit, ok, cool, j'ai absolument rien appris, j'ai absolument rien compris, je ne sais pas de quoi ce comics va être fait. Et c'est très joli, il y a des thèmes qui me parlent. Effectivement, il y a ce côté Indiana Jones, etc. Mais en même temps, j'ai pas de point de vue, je sais pas de quoi ça va parler, je sais pas qui sera le héros, qui va être, quels seront les enjeux et de quoi le comic suivant sera fait. D'ailleurs, à juste titre, l'issue numéro 2 n'a rien à voir du tout.
Ouais.
Et c'est la construction des personnages dans une mythologie qu'on a mis en place dans le 1. Et ces personnages-là qui sont présentés un par un ne font rien. Et à la fin du 2, on dit « Ah, peut-être que dans le 3, les deux vont se rencontrer. Enfin, » Et les personnages et la mythologie. Bref, on en est à 9$. Et on a toujours rien. Et pour 9$, je vais voir un film et à la fin, j'aurai appris quelque chose. Là, pour le moment, j'ai absolument rien appris. Donc, si le rythme de publication, en plus, est séparé chaque issue de plusieurs mois, enfin, en fait, les gens qui suivent ça sont des gens qui sont amoureux de l'idée d'être amoureux du comics.
L'idée qui est humaine,
comme Lost, tu vois, amoureux du Minor,
quoi. Ouais, c'est un peu
non,
ça.
Non, mais enfin, vous êtes amoureux de vos espérances. C'est ça que je dis, en fait. C'est que pour le moment, en fait, vous êtes plus emballé par ce que ça peut être que ce que
oui,
c'est
ouais,
vraiment.
Ouais, ouais, d'accord. Je vois ce que je veux dire, oui, complètement, en fait. C'est tout le côté mystérieux qui est cool.
Voilà.
D'accord, donc ouais, des avis contrastés, mais qui vous donnent, je pense, un bon spectre de ce que vous pouvez découvrir en lisant du coup The Dying and Dead, qui est publié donc chez Image Comics et qui a commencé en janvier et qui en est qu'à son deuxième numéro.
Je crois que j'ai été méchant, je me sens méchant.
Ah non, pas du tout, c'est des avis contrastés, hein, voilà, je suis un peu du tien. On va passer...
Non, c'est pas grave, t'as juste cassé l'ambiance, c'est pas grave.
On va passer à la troisième revue. Il s'agit de All New Captain America, les trois premiers issues présenté par Zef, c'est chez Marvel Comics naturellement, et ça a commencé l'an dernier en novembre.
Ouais, et voilà, donc All New Captain America. Non, Non, mais je savais pas comment commencer cette chronique. Donc au dessin, on retrouve Stuart et Immonen. J'ai toujours du mal à dire.
C'est ça.
Hein, donc c'est un mec que je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais pas retenu son nom, mais sur. Ouais, en fait, il en me jette des yeux. Quoi, quand tu crois. Oui, bah en fait, il est dans All New X-Men que je lis totalement. Voilà. Et en fait, je me disais que la patte graphique, je la connaissais et que ça a été cool, mais je savais pas que c'était lui en fait. Ouais, le nom, je le reconnaissais pas. Donc je conseille complètement son dessin parce qu'il est bien, il est propre, il est très 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 bien. Au scénario, c'est un petit mec, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom.
Richard Remender.
Comment ça se prononce?
Donc c'est Remender, voilà, donc c'est le parrain de l'émission apparemment. Même s'il le sait pas encore.
Il le sait pas, mais voilà.
On va lui dire un jour quand même. Donc voilà, bon, on ne présente plus. Enfin, moi, je suis complètement amoureux de ce mec sur ses scénarios. Je suis en train de lire Venom de lui et je kiffe aussi bien. Au niveau de l'histoire, donc on retrouve Steve Rogers. Enfin, en fait, je vais faire le pitch du truc, mais si vous ouvrez l'issue numéro 1 et que vous lisez le résumé de l'histoire, vous avez déjà ce que je vais vous dire. Donc c'est ça qui est cool.
Ah oui, le truc
très clair.
Qui te résume les 25 chapitres d'avant, ouais, qui était aussi de Remender.
Oui, par ailleurs. Donc c'est Steve Rogers qui s'est fait kidnapper par Armin Zola et qui est amené dans la dimension Z. J'aime bien cette dimension. Il s'en échappe avec le fils donc de son ennemi, Yann. Et à son retour, en fait, il se fait péter la gueule par un espèce de
monstre.
Oui, pardon. Je vais pas trop dévoiler si vous voulez lire la série.
Juste, je te coupe. Je crois qu'il s'échappe pas en fait avec son fils. Il revient tout seul en fait.
C'est comme ça que c'est présenté dans le truc. Hein, mais
ah ouais,
c'est dit comme ça. Bref. À confirmer ou pas.
Ouais.
Donc, son fils s'échappe quand même de la dimension Z. On le retrouve. Spoil du premier issue, tout va bien. Donc en fait voilà, donc Steve Rogers perd en fait son sérum de super soldat, et du coup il se retrouve en fait à être vieux très rapidement. En fait, tout son âge le rattrape très rapidement. Il devient très vieux, donc il peut plus porter de bouclier. Et donc il va léguer son héritage à quelqu'un qui est son ami depuis toujours, qui est Falcon, aka Sam Wilson. Tandis que Yann, le fils de son ennemi, en fait, reprend le nom de Nomad, ce qui est plutôt cool, parce que Nomad, pour ceux qui savent pas, a été aussi le nom de Captain America pendant un temps. Et donc, on le retrouve dans cette série, donc on retrouve le All New Captain America, donc Falcon, avec ses ailes, avec les couleurs du Captain, avec le bouclier du Captain qui s'en sert plutôt bien par ailleurs, qui va s'infiltrer plus ou moins violemment dans une base d'Hydra. Où il y a une espèce de super arme, une espèce de Doomsday qui est en train d'être construite. On sait pas trop ce que c'est au début. Et tout va tourner assez mal en fait pour sa gueule, parce qu'il va s'en prendre plein la gueule pendant tout du long des 3-4 premières issues en tout cas.
D'accord.
Je vais pas en dévoiler plus parce que je trouve que chaque issue est une petite surprise en soi. Il y a des petits trucs qui sont assez cool. Moi j'ai beaucoup aimé la série sur le fond. Pourquoi ? Parce qu'à la base Falcon, je trouve que c'est un héros assez lame. Je l'aime pas du tout. Enfin, c'est pas un héros sur lequel j'ai beaucoup accroché.
D'ailleurs, les méchants se foutent de sa gueule dans tout le premier, la première partie de l'issue. Genre,
pas que les méchants.
Mais c'est qui ce mec ?
Ouais, y a pas que les méchants d'ailleurs. En fait, c'est cool parce que Remender arrive à lui donner, en fait, à mon sens, arrive à lui donner en fait un intérêt plutôt sympa. La construction de l'épisode de chaque issue est plutôt bien aussi. On a un petit côté. Flashback du passé de Sam Wilson, savoir comment c'était avec son père dans le temps, machin et tout. Et on voit toute la violence qu'il a subie en étant enfant, ce qui l'a amené à être comme ça. Au niveau du scénario, c'est à la fois. Alors, on va peut-être me jeter des bières. Je veux dire, simple et complexe. Simple parce que ça se laisse lire. Genre, t'as pas besoin de tout connaître, tout, mais complexe parce qu'il y a plein de petits trucs à savoir dans l'univers de Marvel si on veut vraiment comprendre plein de petites choses. Après c'est très adulte dans le thème parce que c'est assez violent quand même, enfin mine de rien il y a des morts et on se rend pas compte que normalement Captain America ne veut pas tuer, et même si c'est pas lui qui tue, attention, mais je trouve ça assez violent dans l'idée. Au niveau du dessin, bon, je l'ai déjà dit, c'est clair, c'est classe, les combats sont vraiment stylés. Un petit clin d'œil au combat contre, c'est qui, c'est Batroc, c'est ça, c'est
Batroc.
Ouais. Je connaissais pas du tout en fait le méchant est plutôt cool. Ouais, je l'aime bien en final. J'ai regardé qui c'était.
Espèce de lutteur français.
Ouais, c'est fun. Ouais,
moi, c'est
fun. Donc voilà, c'est pas une série qui casse des briques. Moi, je suis assez en jouer parce que quand je l'ai commencé, je m'attendais vraiment à rien en me disant ok, on avait parlé justement du changement de Captain America l'année dernière au début du comics en fait, on trouvait ça plutôt cool. J'avais pas suivi le truc et au final, en fait, me plonger dedans et me rendre compte que c'est bien et que la série va peut-être avoir quelque chose de bien parce que c'est Remender. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que je vais continuer cette série.
D'accord. On va prendre l'avis d'Adrien.
Ouais.
c'est moi.
Non, c'est une très jolie bagarre de trois numéros.
De l'action.
Ah, c'est sur Timon, c'est toujours très joli, c'est vrai.
Pure action, super jolie. Après, moi, je connaissais pas le personnage ni d'ailleurs de Captain America que je connais assez mal, ni de Falcon que je ne connais uniquement à travers le film.
Ouais.
Donc du coup j'ai eu un tout petit peu de background sur lui, ce qui est intéressant, mais j'imagine que quelqu'un qui est fidèle à la série avait déjà vu connaissait un petit peu l'histoire de ce personnage. J'étais un petit peu étonné, ça me paraissait juste être trois numéros de justification. Regardez, il y a un nouveau Captain America, mais pas de panique, il est cool quand même.
Oui, en fait, je te coupe juste deux secondes. En fait, il passe quand même pas mal de temps, comme tu disais, Zef, à revenir sur son passé pour expliquer à quel point en fait son sens de la justice est valable. En fait, c'est pas juste un mec à qui on a donné la couleur et le costume. Il a aussi de véritables raisons d'être aussi
c'est ce qui fait
pro-américain cool, et pro-justice que.
Ouais, ils ont donné cette espèce de profondeur au personnage. Après, comme je disais, Falcon, je le connais pas non plus. Enfin, c'est pas un personnage que je kiffe vraiment. Donc, je connaissais pas son passif à travers les différents comics sur lesquels il apparaît. Mais du coup,
Adrien.
Oui. Non, mais voilà. Après, je vais pas spécialement continuer parce que ça me parle pas en fait. Juste, ça me. C'est de la bagarre, quoi.
Trop lisse, trop attendu.
Oui, je vois pas bien en fait ce qui peut se passer après ça. Voilà, on a justifié que Falcon pouvait être avec Captain America. Maintenant, il va sûrement justifier qu'il peut être dans les Avengers ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas bien ce qui peut se passer après. Mais dans le fond, ça m'intéresse pas trop.
D'accord. Bon, ça mérite d'être simple et clair. Hein. T'as le droit. C'est cool. On va passer à la vie de Gaylor pour conclure ces revues.
Alors, moi, je suis un peu tombé de haut parce que forcément quand tu lis des trucs comme Low, comme Black Science, quand tu lis même le début de son run sur Captain America qui prend le contre-pied total de ce qu'avait fait Brubaker avant avec un truc très sérieux, très, très politisé, et que là il emmène son Captain America dans une dimension complètement farfelue, qui lui colle un fils adoptif, qui le fait rester 10 ans dans cette dimension dans laquelle il en chie mais grave, et tu sens qu'il est de plus en plus fatigué d'être Captain America, enfin tu sens que Remender a des idées. Et puis, on en parlait la dernière fois avec Lane, enfin, il y a 2-3 émissions, cette fatigue, à un moment, qui arrivait sur Remender, enfin, ce mec, à un moment, on n'a pas pu suivre le rythme qu'on lui a imposé chez Marvel. Et, on l'a vu avec Axis, quoi, ça s'est complètement cassé la gueule, c'était vraiment pas terrible. Et sans être une catastrophe comme Axis, parce qu'Axis, c'est vraiment un cas d'école de l'event complètement raté, selon moi.
Je sais pas de quoi tu parles.
Et ben, son All New Captain America, alors qu'il pouvait faire quelque chose de cool avec ce personnage afro-américain qui, justement, on nous rappelle sans cesse en tout début de chapitre, dès la première page, que son père s'est fait tuer, sa mère s'est fait tuer. Bon, il n'a pas de manoir dans lequel se lamenter et tout, mais.
Et une cave secrète.
Voilà, il a juste un petit frère et une petite sœur qui doit s'occuper, il a 3 jobs à côté, enfin voilà, du coup, il se dérouille un petit peu comme il peut. Et je trouve que c'est un peu bancal. Alors, moi, j'adore déjà le dessin de Stuart Timonen. Je trouve que dans les phases d'action, c'est vraiment impeccable. La perspective est folle. Enfin, ça change tout le temps de plan. Tu sens qu'il est super à l'aise, quoi. Que le personnage lance son bouclier, qu'il vole, qu'il doit essayer de le rattraper. Enfin, il n'y a pas de fausse note au niveau du dessin. Mais au niveau de l'histoire, je trouve ça. Il y a même des fois, je comprends pas, quoi. À un moment, Captain America rentre dans un ascenseur. Il ressort 2 dimensions plus loin, ses ennemis devant lui.
Il y a des trucs, what the fuck.
Il y a un truc, un moment où il rentre aussi dans une porte et puis il arrive dans une espèce de. On l'attache à un tank et puis on le met dans une espèce de Wikipédia en 3D où on lui montre toute sa vie. Regarde, avant tu étais comme ça, regarde, et avant t'étais petit, machin, c'est Red Skull qui est là, qui lui raconte toute sa vie. Alors,
c'est pas Red Skull par ailleurs.
Si, c'est Red Skull, enfin c'est le nouveau Red Skull.
C'est sa fille. Hein.
C'est sa fille, mais qui se fait appeler Red Skull. Ça fait penser un peu à un Batman 66, tu vois, genre le méchant qui ne tue pas le gentil, alors qu'il l'a complètement à sa merci, mais qui décide de l'attacher, de le torturer avec des trucs complètement cons et complètement
laid. Le cas classique, voilà, du méchant qui devrait passer moins de temps à parler et plus à tuer.
C'est ça, et puis à un moment, elle le tient en joue, fait « Ah non, j'ai pas de tuer. Tu vas enlever ton petit truc derrière qui te permet de voler, puis tu vas sauter dans le vide. » Comme une balle, quoi, fais quelque chose, je sais pas.
Sois méchant, quoi.
Voilà, sois méchante, quoi. Et finalement, enfin bon, voilà, c'est, j'ai lu trois issues et je vais aller jusqu'au bout parce que la série est finie, elle s'est arrêtée au 6. Parce que Secret Wars, parce qu'il va y avoir un reboot en octobre, tout ça. Donc je vais finir parce que. Plus par complétiste en fait. Par complétiste, quoi. J'en ai lu 3, il y en a 6. Ouais, j'ai pas envie de laisser le truc en suspens. C'est du Reminder, bon, c'est très joli aussi. Enfin, je vais le lire sans vraiment espérer autre chose, quoi.
D'accord. Voilà. Alors merci pour ces trois revues. Je veux juste te parler du fait que la version française de ce All New Captain America est déjà dispo depuis peu chez Panini dans la série Avengers Now que vous pouvez acheter dans la presse et que pareil depuis juillet, vous pouvez la trouver en anglais en hardcover et vous la retrouverez en paperback en mars 2016. Merci pour ces revues à vous trois. On va passer à la rubrique suivante, à la découverte. Ça, je dois le couper, hein. Merci.
Oh, mais non.
Bienvenue à nouveau dans Comics Outcast. Toujours comme d'habitude, vous pouvez commenter et réagir grâce au hashtag Comics Outcast ou sur notre page Facebook après avoir entendu l'épisode ou même pendant, ça peut être rigolo. Live tweeter l'épisode pour et spoiler les autres si ça vous amuse. Voilà. On va passer à la présentation d'une série de Jeff Lemire. On a quand même passé 5 minutes avant l'émission pour savoir comment ça se prononçait, mais apparemment c'est le meilleur.
Tu as passé 5 minutes.
Moi. Et c'est Adrien qui va nous la présenter, pardon. On t'écoute.
Oui, je vais essayer de vous le présenter en vous donnant le plus envie possible, en vous en disant le moins possible. C'est...
Bonne chance.
En fait, pour être très très simple, lisez-le. Voilà.
On va tout de suite passer donc...
Alors, il faut le lire, c'est ma claque de l'année, c'est un des meilleures choses SF que j'ai pu lire de toute ma vie, je pense.
Wow, ok.
Carrément, d'accord.
Assez simplement. Donc, Jeff Lemire, à qui on doit Sweet Tooth, dont on a parlé il n'y a pas très très longtemps.
En effet.
Que j'avais aimé, mais avec certaines réserves. Je vous renvoie à l'émission où j'en parle formidablement bien. je me rendais juste compte que c'était pas spécialement le trait que j'aimais, mais pourtant j'aimais la façon dont il dessinait quand même.
C'est vraiment particulier. Hein.
C'est très bizarre.
C'est des visages très allongés.
Et pourtant, la chose qui marque quand on ouvre Trillium, c'est que c'est très beau. Et très très vite, on rentre dans l'univers. Enfin, il y a un univers Jeff Lemire et on rentre dedans très très vite. Je vais vous pitcher le livre. C'est en 8 chapitres. C'est une histoire qui est terminée, qu'on trouve aujourd'hui en relié et qui se lit pour 15€. Il faut acheter le livre. Voilà. L'histoire commence en 3797. L'humanité ne compte plus qu'une poignée d'hommes, enfin quelques milliers, 4000 je crois. Les hommes sont à la recherche d'une plante qui s'appelle le Trillium, qui leur permettrait de fabriquer un antidote à un virus qui dissémine donc l'humanité. Et c'est leur dernière chance. Il y a une dernière planète sur laquelle ils peuvent aller pour aller chercher cette plante. Et il y a cette femme qui s'appelle Nika et qui va avoir la lourde tâche d'aller négocier avec des indigènes qui peuplent la planète pour aller extraire le Trillium et donc sauver l'humanité. Elle va un petit peu casser le protocole et provoquer la rencontre en tête à tête, et elle va consommer d'ailleurs du Trillium. Ça va la faire partir complètement
en live,
en bad.
Ça se dit encore ça ?
En live.
Partir en live.
Partir. Désolé, en why.
Enfant des années 90.
Et au bout de 20 pages de ce comics, on retourne le livre et on découvre une autre histoire. L'histoire d'un homme qui, dans les années 20, traumatisé par la Première Guerre mondiale, est un explorateur de l'Amazonie et qui découvre une pyramide, visiblement Inca, je crois, crois.
Ah oui, il recherche un temple.
Il rechange, voilà, il est au Pérou, il cherche un temple. Et par le truchement d'un phénomène, les deux personnages vont se rencontrer à travers le temps, à travers l'espace. Ils sont tous les deux très très éloignés par le temps, par leurs histoires. Et en fait, dans le reste du livre, on va avoir les destins croisés de ces deux personnages qui sont deux timelines qui vont finalement ne plus en former qu'une. Et c'est le lecteur, en fait, en lisant le livre, et je vais insister sur le fait qu'on ne lit pas seulement le livre, mais on le manipule. On tourne les pages, on tourne le livre, on change le sens de lecture normal d'un livre. Jeff Lemire, en fait, s'amuse beaucoup avec la mise en page, avec la façon, les codes de la BD et la façon dont normalement on devrait lire. Et par tout un tas de petites astuces scénaristiques, il entremêle ces deux scénarios pour former une troisième timeline un petit peu. Et voilà, un petit peu à la façon d'un sablier, on va passer notre temps à retourner le livre dans tous les sens pour manipuler aussi un peu
pour que ça continue.
Le temps et l'espace. C'est une histoire fantastique, c'est aussi un peu une histoire d'amour au sens un peu platonique du terme, ou de l'amour, une sorte d'amour idéal où juste deux êtres veulent ne plus être qu'un.
J'ai eu peur que tu me dises que l'amour triomphe et machin.
Non, j'irai pas jusque là. Mais voilà, c'est un des trucs. L'histoire est assez simple au final. Les personnages principaux sont très très bien écrits. À côté de ça, les personnages secondaires sont pas spécialement fous. Y a des raccourcis scénaristiques qui sont un peu gros. En termes d'artwork, tout le monde ne va pas y se retrouver. Mais la façon dont Lemire la traite, le média, en fait. Enfin, je trouve vraiment, en fait, il challenge complètement la façon de lire. Y a tout un tas d'astuces scénaristiques. Dans le chapitre 2, par exemple, il y a toute une phase où les deux personnages principaux qui se rencontrent ne se comprennent pas, puisque éloignés de plus de 2000 ans d'histoire, on ne parle, les humains ne parlent plus de la même façon. Et en fait, une page, Nika ne va pas comprendre William, et la page en face, William ne va pas comprendre Nika. Et quand on voit l'autre parler dans ses phylactères, c'est des espèces de...
C'est un peu comme du morse, en fait,
du morse, un truc un peu cunéiforme, il y a un peu de tout. Et enfin voilà, on s'amuse vraiment là-dedans. C'est de la réalisation propre, quoi. Il y a des cases dans un sens, il y a des cases dans l'autre. Bon voilà, mais c'est un peu ma claque. Je veux pas aller plus loin dans l'histoire parce que j'aimerais vraiment que vous puissiez découvrir l'histoire par vous-même. Et voilà.
Bah, c'est parfait. Zef, est-ce que tu as eu l'occasion. Ah là là, est-ce que tu as eu l'occasion de découvrir ce titre?
Alors, je l'ai pas fini. En fait, quand j'ai commencé à trouver, j'ai cherché le comics
en numérique,
parce que je voulais pas l'acheter tout de suite. Spoil donc, je vais l'acheter. En fait, je commençais à chercher le truc et j'envoie un texto à Adrien en disant Trillium, c'est le truc bizarre avec les fleurs.
Et, le résumé de base.
Il me répond, enfin, plus tard, il me répond oui, c'est ça. Et je lui ai répondu ok, ça défonce. En fait, j'ai commencé à lire le truc en démat. Au bout d'un chapitre, j'ai dit ok, j'arrête, il me faut l'objet physique, il faut que je lise ça en physique. Ça, c'est vraiment. Alors, le dessin est vraiment particulier, effectivement. Ça me fait vraiment penser à de la BD franco-belge dans certains sens, en fait. C'est pas une critique en soi, hein, c'est juste que c'est bizarre. C'est assez pastel, j'aime beaucoup le ton, j'aime beaucoup le côté un peu brouillon sur les traits, comme si c'était repris plusieurs fois, dessiné la même chose. J'aime beaucoup les expressions de visage qui sont très très claires, en fait. On comprend absolument tout ce que le personnage pense à ce moment-là. Et la construction de l'histoire est juste fantastique. Enfin, je sais pas, je pense que t'as très bien résumé le truc, en fait. C'est vraiment prenant. Tout de suite, en quelques pages, on se rend compte de tout le poids qu'il peut y avoir sur l'histoire, et je suis même un petit peu déçu que ça soit aussi court au final, parce que j'ai envie que ça dure très longtemps, parce que j'ai envie de découvrir beaucoup de choses, non, mais je pense que je vais pas être déçu, ça va tomber comme une claque dans la gueule à la fin, quoi. Donc je conseille largement le truc, et j'ai été très vite happé dans l'histoire.
C'est vrai que les visages sont vraiment très expressifs. De là, je suis en train de flûter pendant que Zef parle. Les personnages ont véritablement, enfin, bon, l'explorateur William, il est dans un trek, donc ça fait longtemps qu'il marche. Voilà, il est fatigué, donc son visage est très tiré, mais on a l'impression en fait que ça fait genre 3 semaines qu'il a pas mangé.
Ouais, c'est
et
ça,
c'est pareil pour l'héroïne, en fait, ils ont vraiment l'air en fin de vie. Et c'est on voit la fatigue, la peine.
C'est aussi deux personnages qui sont enfermés dans leur trauma, en fait, sans trop raconter leur background respectif. Ils ont chacun des traumatismes et ils sont chacun isolés dans une forme de solitude. Et c'est la, enfin, c'est leur rencontre qui va leur permettre de s'affranchir un peu aussi de leur trauma.
En tout cas, ouais, les expressions sont vraiment extrêmement bien retransmises.
Ouais, en fait, au niveau dessin, ça m'a fait penser un peu, enfin, même l'histoire, de très loin, ça m'a fait enfin au film The Fountain.
Exactement.
Oh, mais c'est un peu dingue, mais j'ai moins parlé.
En fait, c'est en regardant le truc, je viens d'y penser, et du coup, j'en avais parlé dans la Halo Centrale. En fait, ils ont sorti une BD qui s'appelle The Fountain, quand le film a failli pas sortir. Et je l'ai pas lu parce que c'est Lux qui l'a, en fait, qui me l'a piqué quand je l'ai acheté. Et en fait, du coup, au niveau dessin, ça me fait vachement penser à ça, le côté vachement pastel, peint, tableau, truc. Et de loin, dans l'idée, ça me fait vraiment, vraiment penser à ça. Et je crois que je vais juste me masturber dessus quand je vais le lire.
Ok. On va finir avec Gaylor. Qu'est-ce que tu as pensé ? Est-ce que tu as eu l'occasion de mettre les yeux là-dessus ?
J'ai lu la moitié et je vous déteste parce qu'il y avait cette émission enregistrée et j'ai pas pu finir en fait. Et voilà. Et non, moi en fait, j'en ai déjà parlé avec Sweet Tooth. Je suis très très fan du trait de Jeff Lemire. J'adore son trait hésitant, sa façon de dessiner des regards, ses regards caverneux, ses regards pleins de détresse.
C'est le mot caverneux. Hein.
Il est vraiment très très doué pour ça. Et je suis vraiment épaté par la façon dont il arrive à prendre une histoire de science-fiction et à amener ça autour de, enfin, une histoire d'amour et à amener ça justement à, enfin, à mélanger histoire d'amour et science-fiction.
Et de aussi bien. Habilement équilibré.
Voilà, et pas justement, juste moi j'avais un petit peu peur en lisant les issues que ce soit un gimmick, le fait de tourner son comics, de retrouve-moi en page 35 pour prendre le comics à l'envers.
le comics dont vous êtes le héros.
Voilà, c'est ça un petit peu, tu vois, le comics dont voilà. Et en fait, pas du tout. On en parlait avec Adrien tout à l'heure. Chaque chapitre, en fait, a sa petite astuce de lecture. Ça mélange les cases. Une case et l'autre peuvent se répéter justement parce que l'un et l'autre ne se comprennent pas ou peuvent être inversés parce que l'un est dans sa timeline, l'autre est dans la sienne. Et techniquement, je trouve ça très cool justement, donc ce fait d'expérimenter encore à notre époque, tu vois, des choses avec la bande dessinée et même en allant plus loin, tu vois, en parlant d'art séquentiel, tu vois, en jouant justement sur cette ellipse qui se crée entre deux cases,
ouais,
entre le blanc, tu vois. C'est Scott McCloud, ouais, qui disait dans justement son
l'art de faire, je sais plus en français comment ça s'appelle, mais l'art du comics ou...
Oui, un truc comme ça, tout simplement. J'ai plus le titre.
On vous le balancera sur Twitter. Évidemment.
Voilà. Il parlait de cette théorie justement de l'espace-temps, enfin du temps et de l'espace qui sont liés où tout se joue et justement, enfin tout joue justement sur cette séparation des cases. Et je trouve que Jeff Lemire en joue vraiment incroyablement bien. Et j'avais lu des interviews de Jeff Lemire sur justement comment il a été amené à écrire cette aventure qui justement sort un petit peu de ses histoires habituellement surnaturelles.
Ouais.
Et en fait, c'était vers la fin de Sweet Tooth, il en avait un petit peu... il était déjà en train de pitcher sa prochaine histoire avec son éditeur.
Ouais.
Et il pitchait des trucs surnaturels et en fait, ça lui convenait pas. Il n'était pas aussi excité que sur Sweet Tooth, tu vois. Il n'était pas aussi branché sur le truc. Et c'est finalement son éditeur qui lui dit « Bah tiens, pars sur un truc SF ». Un truc que tu n'as pas l'habitude de faire et vas-y, sors un petit peu des sentiers battus et vois ce que tu peux faire. Et il s'avère que Jeff Lemire en fait est très très fan d'Arthur C. Clarke, tu vois, de ses romans 2001, l'Odyssée de l'espace, tout ça. Il n'était pas très Star Trek, il n'était pas très Star Wars, alors que c'était une époque justement, il est né dans les années 60 où justement tout le monde était obligatoirement
soit
fan de l'un ou de l'autre, et ouais, lui il s'en foutait un petit peu des deux et il était plus dans des livres. Il y a un peu les livres aussi d'Asimov.
Ouais.
Et du coup, avec Trillium, en fait, il racontait que justement, il a pu se replonger dans cette période de sa vie, à cette époque où il adorait lire ce genre de roman. Et que justement, il écrit une histoire d'amour, mais c'est aussi un petit peu son histoire d'amour envers ce genre-là, tu vois.
D'accord. Donc, franchement, Franchement, unanimement,
c'est à lire, c'est complètement on a tout kiffé.
C'est à lire et c'est à acheter surtout. Ouais,
alors, ouais. Vous pouvez l'acheter dans 2 médias différents. Vous pouvez l'acheter en français chez Urban Comics, qui donc représente les éditions de chez Vertigo. Ouais. Vous l'avez là par contre en cartonné, donc c'est en hardcover. Et vous pouvez également l'acheter en anglais, mais en version paperback. Les deux sont dispo depuis la fin de l'année dernière, donc faites-vous plaisir et faites-nous plaisir et surtout faites-nous vos retours. Est-ce que vous avez aimé cette série, hein?
Isner Award, enfin
oui.
Oui, en 2014.
Il a pas gagné.
Non, je ne crois pas.
Voilà. Donc non, mais c'est bien quand même.
Donc,
merci pour cette présentation. On va passer à la dernière partie de l'émission. Il s'agit de Hors les Bulles. De retour dans la dernière partie de Comics Outcast. Comme d'habitude, vous réagissez sur Twitter ou sur la page Facebook. On va passer à la dernière partie de l'émission. Il s'agit de Hors les Bulles. On va parler de la série de The CW qui s'appelle iZombie. Alors, iZombie, ça a commencé au début de l'année 2015. Ça passe donc sur The CW, la même chaîne qui diffuse Arrow, Supernatural, Flash. The Flash. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de trucs de merde? America's Next Top Model. Bon, voilà, vous connaissez ce network, vous avez... Ça passait Smallville il y a quelques années, donc voilà, c'est imprimé tout petit, mais en fait on a regardé les trois premiers épisodes, il y en a 8 hein, dans la saison 1 si je ne me trompe pas.
Il n'y en a pas 13,
il y en a 13 je
crois. Il y en a 13 hein, dans la saison 1, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire, merci d'écouter. C'est une série qui a été écrite et réalisée par Rob Thomas et Diane Ruggiero. Rob Thomas, vous le connaissez certainement, c'est le scénariste derrière Veronica Mars, une des séries cultes des années 2010.
Que je n'ai jamais vu.
Ouais, bah regarde ça, franchement, je pense que... Si t'as aimé ça, là, tu vas aimer Veronica Mars. Il y a moins de zombies et de cerveaux, mais c'est génial. Donc, c'est une adaptation de comics, hein, à la base.
Ouais, complètement.
De chez Vertigo. Et bah du coup, est-ce que tu penses que tu peux présenter ça un petit peu, Zef?
Alors, comme tout le monde ici, je n'ai absolument pas lu le comics, à la base.
C'est juste
donc,
renseigné.
Ça, donc, on sera excessivement... objectif.
Voilà. On va être
donc on va se faire pourrir sur Twitter.
Voilà. Mais oui,
en parlant d'un truc qu'on connaît pas. Donc iZombie, en fait, moi j'avais vu les pubs dans les comics que je lisais au fur et à mesure et ça m'attirait vachement en fait à la base. Donc quand la série est sortie, Adrien a parlé du truc, je fais ah ouais, c'est vrai que c'est sorti, ça a l'air cool. iZombie, c'est quoi en fait? C'est l'histoire d'une nana qui un soir va faire une espèce de fête sur un bateau sur un lac. La fête se passe très bien, elle s'ennuie dans son coin et d'un seul coup il y a un grand bruit, un mec court, l'autre a peur, l'autre est déchiré en deux par un zombie, bref, les zombies sont sur le bateau, ils sont en train de tuer tout le monde. Elle se fait pousser à l'eau, je crois, par un mec. Elle se réveille le lendemain, en fait, un peu bizarre, elle a les cheveux tout blancs, à la fin de quelque chose, et elle se retrouve.
Alors,
en fait...
Elle se réveille surtout dans un sac.
Oui, voilà, dans un sac,
un
body bag. Et donc voilà, et du coup, elle se rend compte que, je crois qu'après, il y a une ellipse de temps, en fait, où elle se retrouve à travailler donc à la morgue parce qu'elle est effectivement devenue un zombie. Mais ce qui est bizarre dans ce monde-là, c'est que les zombies sont pas décérébrés tout de suite, en fait. Ils ont une phase de encore humaine en eux où ils doivent manger du cerveau épicé, très épicé. C'est la seule goût qu'ils ont encore dans la bouche, apparemment. Et donc, en fait, ils mangent des cerveaux humains. Donc, ils se nourrissent avec ça. Ils sont obligés de se nourrir avec ça. Donc, elle s'est dit, je vais travailler dans une morgue, ce qui va me donner un accès quasi illimité, en fait, au cerveau humain. Et il y a un truc assez fun, et c'est ce qui fait le sel de la série, c'est que à chaque fois qu'elle va ingérer un morceau de cerveau, elle va, voir les moments de la personne qu'elle est en train de manger à certains moments clés de sa vie. Et elle va adapter, en fait, et c'est vraiment le côté fun de la série, elle va adapter, en fait, sa personnalité à la personne qu'elle a mangé. C'est-à-dire que si elle mange...
Elle va prendre ses caractéristiques.
Voilà, si elle mange quelqu'un qui fait un artiste peintre, à un moment, elle mange, et elle se retrouve, en fait, à dépeindre le monde avec ses couleurs et à faire peindre chez elle et tout.
Non, mais elle change de vocabulaire.
Ouais, voilà, tout change, oui. Son comportement physique, mental, tout est beau et tout. Et donc, c'est vraiment tout le fun de chaque épisode. Et c'est ce qui m'a attiré, parce que moi, à la base, je suis pas très fan des séries où on appelle ça le Freak of the Week. Je suis pas fan du tout ce genre de truc, ça me saoule très vite, en fait, avec une trame de fond qui est jamais exploitée correctement. Et là, pour le coup, en fait, voir l'actrice qui est, je l'ai appris tout à l'heure, effectivement, le Power Ranger jaune, ça, c'est génial. Donc, voir l'actrice qui, à chaque épisode, En fait, ça me fait penser en fait à Code Quantum, tu sais, où ah, le mec en fait faisait exactement quelque chose de totalement différent à chaque fois. Et c'est un peu ça en fait. À chaque épisode, elle fait un personnage complètement différent, avec une moindre mesure. Mais et j'ai trouvé ça vraiment génial. L'actrice est mignonne, elle est cool, elle a un petit accent qui est fantastique. Et les personnages secondaires sont assez sympas aussi par ailleurs. Donc elle est aidée par son pote qui est au courant qu'elle est un zombie, donc son chef à la morgue, et elle l'aide du coup avec les visions des morts qui sont amenés à la morgue, et à résoudre des enquêtes avec un flic qui travaille dans le même bâtiment qu'elle par ailleurs, et donc elle résout les enquêtes avec lui.
Il est très crédule ce mec. Gaynor, tu t'as regardé aussi, qu'est-ce que t'en as pensé?
Globalement, comme Zef, j'ai beaucoup aimé cet aspect. Enfin, heureusement qu'elle joue bien, quoi.
Ouais.
Parce qu'elle jouerait pas bien, en fait, tout se casserait la gueule, je pense.
Oui, elle porte un peu la série, quand même.
Oui. Et du coup, c'est vraiment très drôle de l'avoir tantôt en peintre un peu sensuel, un petit peu en train de dragouiller tout ce qui bouge. D'un coup, en meuf super paranoïaque qui a peur de son ombre. Et, enfin, moi, j'ai vu 4 épisodes et je me suis pas ennuyé. Vraiment, je me suis pas ennuyé. Je les ai trouvés en plus plutôt bien écrits. Et plutôt dense en plus. C'est des enquêtes qui, il y a même une enquête, je comprenais pas quoi. C'était vraiment, enfin le quatrième épisode, enfin il y avait plein de connexions. Enfin c'est pas des trucs un peu faciles quoi au niveau des enquêtes quoi. Je suis pas un spécialiste des séries policières, mais je sentais que voilà, il y avait un peu plus que
pour une série de ce niveau-là en fait, ou enfin qui diffuse Arrow à la place, enfin
on n'est pas dans les enquêtes de Flash, tu vois, où ils sont tous dans une espèce de pièces de théâtre, tu vois, où ils peuvent tous débarquer dans le labo comme ils veulent, tu vois, les portes sont grandes ouvertes, tu vois. Non, là il y avait un peu plus de mouvement, il y a un peu plus de respect de temps et d'espace, tu vois. Et je sais pas, c'est tout con, mais ça m'a plu du coup. Et même au niveau des maquillages, par exemple, tu vois, quand elle se transforme en zombie, enfin tu vois, sa peau blanche, ses cheveux tout blancs, ouais. Je trouve ça très réussi. Et j'aimais beaucoup aussi cet acteur, ce protagoniste qui apparaît dans l'épisode 2, cette espèce de Spike au rabais.
Blaine. Qui prend un rôle déterminant dans toute la saison 1, sans trop en dire. En fait, l'effet Freak of the Week qu'on a au début se gomme un petit peu à la fin pour que la série vraiment prenne un peu d'ampleur sur, on va dire, deux plots principaux.
D'accord.
Deux
intrigues principales, dont une qui tourne autour de Blaine.
D'accord.
Okay. Qui devient du coup une sorte de némésis un peu gris en fait. On peut pas dire qu'il soit franchement méchant.
C'est ça que j'ai bien aimé avec ce personnage.
C'est ce qui est vraiment vraiment chouette.
Il apparaît jamais vraiment comme un allié.
Voilà.
Même quand il est plus avec.
C'est
exactement ça. Il vient quand il a besoin d'un truc.
C'est un peu l'homme à abattre, mais
même temps,
sans lui, ça deviendrait compliqué.
Je voulais placer un mot pour le Michael Red, dont on n'a pas parlé. C'est une BD adaptée de. Voilà, c'est lui qui a fait cette bande dessinée. Enfin, c'est lui qui la dessine. Ouais. Je sais pas si c'est lui qui la scénarise. J'ai pas fait. Il me semble que c'est son bébé.
Du comics, tu parles ?
Du comics, oui.
Je crois pas, non, c'est quelqu'un d'autre.
C'est quelqu'un d'autre, d'accord. Enfin, moi, je suis très très fan de sa patte graphique. On la voit d'ailleurs dans le générique.
Oui,
le générique
qui participe, ouais.
Ah ouais, le générique est. Enfin, moi, je le trouve fantastique.
Le générique est dans le ton, disons qu'il est un peu rock pour ado.
Oui, en plus, j'aime bien cette petite musique de merde, tu vois.
Mais elle me. Finalement.
Enfin, je te parle uniquement de la partie graphique, hein. Je trouve très très réussi. Enfin, moi, je suis très très fan de son coup de crayon. On l'a vu sur plein de comics, sur les FF avec Matt Fraction, on l'a vu sur. Il a fait plein de creator home comme Madman. Enfin bon, bref, il est vraiment très très doué et je suis vraiment content de le voir. Enfin, de voir au moins ce petit générique fait par lui, quoi. Tu vois,
ils ont fait le lien entre la série.
Ils sont obligés de le faire, mais c'est vrai que je vais me pencher sur le comics perso parce que ça m'a vraiment intrigué. Je crois que je suis pas sûr que le comics soit encore ongoing, je crois que c'est fini.
Mais le comics est fini, oui.
Je crois qu'il est complètement différent, il me semble.
Ouais.
Mais ça me donne envie en fait. J'avais commencé à mater au niveau graphique ce que ça donnait, j'avais beaucoup accroché, mais je crois que c'est complètement différent.
Je suis pas plongé en intrigue non plus, mais.
Je crois que c'est très différent. J'ai entendu parler de la série, que moi aussi, j'ai regardé la saison en entier, j'ai beaucoup aimé la série. Je trouvais ça quelque chose de très très agréable. Ça reste CW néanmoins, et ça reste quand même un peu de la rom-com pour ado. Et
c'est light.
C'est ce que reprochent quand même beaucoup les gens qui ont lu le comics, et je veux bien les croire. On sait comment un channel comme CCW, à ses contraintes, à ses formatages, et peut détruire ou dénaturer une œuvre. Et j'imagine bien que iZombie n'a rien à voir avec ça.
Ça se trouve, si on avait lu
chez
le comics,
Vertigo, ça doit pas ressembler à ça.
On aurait été complètement déçus.
Oui, voilà, ça se trouve, on aurait été complètement déçus.
Je pense que ça peut être que surpris positivement. Ouais.
Alors que je sache. Enfin, pardon, Dorian, tu veux ajouter quelque chose ?
Alors écoutez, non, ce que je peux vous dire, c'est que la saison 2 reprend le 7 octobre.
Ouais, très prochainement.
J'ai vu que il y allait avoir dedans Robert Knepper.
Le mec Prison Break.
De Prison Break, ouais. Qui jouait un peu le perv là, et qui est aussi T-bag. D'ailleurs
en zombie.
Qui est le Club King dans Arrow et Flash, tu sais. Aussi.
Ah, donc c'est un abonné à CW en fait.
Voilà, lui il s'est dit.
Je pense qu'il y a une version XX.
Ok. Du coup, j'ai pas eu vent d'une diffusion française de la série.
Oh, ça va arriver, ça va arriver.
Ça a l'air bon, grand public. Hein,
comme parce Flash que sur TF1 à 22h.
Ils ont chopé voilà. Flash et Arrow, à mon avis.
Pourquoi pas le mettre en désordre aussi.
C'est pas mal ça, oui.
Le lundi matin, ou je sais pas quel horaire absolument terrifiant et pas du tout. Bon, bref.
Ah, pour revenir sur le terrifiant, ouais. Je veux juste en remettre une petite couche quand même, parce que moi j'ai été assez étonné quand même. Ça a beau être sur CW, j'ai trouvé certains passages quand même assez osés dans le gore et dans le truc. Enfin, il y a un bon équilibre quand même entre le côté c'est rigolo, c'est frais, c'est des histoires de flics, mais un peu où on se marre bien, et les moments où, parce que ça reste quand même une série qui s'appelle iZombie, et donc il y a des morts, enfin il y a des zombies. Les passages zombies sont, je trouve, assez bien foutus, et le peu de budget ouais. qu'ils ont, ouais. je trouve que
non mais on
je...
est pas dans Dead Set non plus quoi.
Non mais c'est très honnête quoi. C'est oui, ça que je veux dire en fait, honnête, c'est quoi. Que ça dépasse pas la ligne où d'un coup c'est nul, tu vois, ou c'est
ah oui dans ce sens-là oui
cheap,
pardon
d'accord, négatif
d'accord ouais. ok ouais.
Et c'est vraiment bien géré à ce niveau-là et ça je suis
ouais enfin il y a deux trois choses enfin ouais après pour faire du reproche il y a deux trois trucs qui sont marrants. Mais que moi je reproche un petit peu, que si dénature le côté zombie, c'est pas la pizza au cerveau, tout comme ça, tu vois, ça me.
Non,
je suis pas
très
fan.
C'est que il dédramatise beaucoup le côté zombie outbreak, tout
oui,
ça.
Voilà,
et genre, je suis une mort vivante, je sais pas comment on dit. Mais je dois consommer du cerveau, et du coup, en fait, on la voit manger, Adrien disait hors antenne, comme une étudiante, en fait.
Oui, voilà,
elle se réchauffe ses plats, en fait, elle met juste quelques petits morceaux de cerveau. Ouais, pour
c'est
continuer
à côté
consommer.
Que j'aime pas des masses, mais bon,
ça colle
à l'idée de la série.
Ça sympa.
Quoi.
Et dernière chose, je trouve que la série ressemble pas mal à Psych. Je sais pas s'il y a des gens qui ont eu l'occasion de voir cette série de Buddy Cops, en fait, qui
résolve.
Merci, je voulais pas conjuguer ce verbe. Des énigmes, enfin des crimes avec un peu d'humour, un peu de fake quelque chose, mais toujours dans la détente. C'est assez sympa, ça fait Buddy Cops, donc des policiers amis.
C'est ça,
voilà.
Alors, j'ai pas compris.
Arrêtez, les gars.
Voilà, donc vous pouvez que la le regarder chez. Voilà, demander à votre.
Ça doit se trouver sur iTunes.
Tu crois ?
Je pense.
Bon, on vérifiera et s'il y a un lien, on vous le met sur Twitter hein. Voilà, et Facebook. Voilà, bah c'est déjà la fin de cette heure.
Oh, yeah.
Et on enregistre au studio de Port-Royal, donc on n'est pas à WFM, oh, donc on n'a pas les moyens luxueux que Joe peut nous avoir.
On est dans le 5e arrondissement quand même.
Ouais. Oui, ça. Non, je vais juste demander, est-ce qu'Adrien pour arrêter de me faire du pied juste.
Ah, c'est ton pied.
Oui, oui, la
c'est
table mon pied. Est très
petite. C'est.
Ok. Donc voilà, comme d'habitude, voilà, on se retrouve dans 2 semaines, le 7 septembre. C'était à peu près la fin de la saison, mais en fait, on n'est pas trop sûr. Donc 26e épisode, 52 divisé par 2, 26.
Ah, c'est ton boulot, mec, tu comptes, hein, tu nous dis
ouais,
c'est le premier anniversaire ou pas. Hein.
Vu que. Non, l'anniversaire, ça devrait être le prochain, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Je sais pas. Mais nous, on revient la saison prochaine, hein. On est.
Bouya.
Dans 2 semaines, quoi.
Sur Radio Kawa, d'ailleurs,
saison 2.
Émission est une émission Radio Kawa, saison 2, ouais. Ah. Saison 2, épisode 1, t'es compagnie, épisode 27. Voilà, vous nous retrouvez sur Facebook et Twitter comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour du contenu supplémentaire, c'est-à-dire que tout ce dont on n'aura pas eu le temps de parler, toutes les illustrations qui composent nos commentaires, vous pouvez les retrouver là-bas pour vous faire une idée des bandes dessinées qu'on parle. Comme c'est une émission qui parle d'un contenu visuel, il faut quand même s'aider un petit peu.
Bah, ça serait pas mal.
Voilà, ce serait cool parce que les illustrations de Nekoto, elles sont magiques, mais elles ne parlent pas de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, vous nous écoutez en streaming comme d'habitude. J'arrête pas de dire comme d'habitude. Est-ce que je mets 1€ à chaque fois que je le dis? dans une boîte.
Ouais,
pour,
vas-y,
tu donnes la boîte. Bières après, ou des voilà. En téléchargement sur le site de Radio Kawa ou d'iTunes, ça vous permettra de découvrir le portail de Radio Kawa qui est quand même super cool parce qu'il y a plein d'autres émissions.
Oui. Dont, j'ai une...
Voilà, et je le dis pas assez depuis quelques temps, mais écoutez les clairvoyants, ils ont fait des trucs super sympas. Super sympa sur tout ce qui est question de droit, Marvel, Sony, Fox.
Ah oui, je l'ai écouté
c'est
ce matin.
Ouais, super cool. Intéressant. Donc voilà, si vous avez des problèmes sur Fantastic Four, comme donc toute la planète, et X-Men et compagnie qui appartient à quoi, je vous conseille de leur faire un petit coucou. Voilà, et je vous conseille aussi d'écouter Rien à voir, mais c'est. Y a plus de péloche, qui est une émission super sur le cinéma qui passe sur Radio Kawa, que j'adore, je les kiffe. Bisous à vous tous. Bah bisous à vous les chroniqueurs.
Bisous Eric.
T'écouteras la Ligue bientôt surtout sur Radio Kawa ou pas?
Tu vas pas assez fort donc je sais pas ce que t'as dit.
Tu écouteras la Ligue bientôt sur Radio Kawa.
La Ligue, oui, ouais, j'écouterai la Ligue bientôt sur Radio Kawa. Putain, le teaser de ouf. Rendez-vous le 7 septembre pour la 27ème émission. À bientôt, ciao, bye bye.
Ciao.